j'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme déchirée. D'un côté, elle adore son métier, elle aime tous les jours se rendre au boulot et y retrouver la petite équipe qu'elle anime. Elle aime les relations de confiance qu'ils ont su développer. Mais de l'autre, l'entreprise pour laquelle elle travaille ne prend pas suffisamment le virage écologique. Bien sûr, l'entreprise dit le contraire. Bien sûr, l'entreprise met en avant sa politique RSE. Mais elle, elle sait. Elle sait même que le dernier produit lancé sur le marché est un drame écologique. C'est le genre de produit dont on pourrait très bien se passer, qui crée un nouveau besoin et participe directement à la surconsommation, au réchauffement climatique et donc à rendre notre monde inhabitable. Elle se réveille parfois la nuit en sueur. Est-ce à cause de ça ? Elle ne sait pas, car dès qu'elle se met en mouvement le matin pour partir au travail, elle a le cœur en joie à l'idée de retrouver ses collègues, quasiment des amis. Elle a de plus en plus de symptômes récurrents, des rhinites allergiques, même hors saison, des tendinites, même sans faire de sport. Est-ce à cause de ça ? Est-ce à cause de ce conflit de valeurs qui fait rage au fond de son cœur ? D'un côté, son éthique de manageuse, de l'autre, ses convictions écologiques, incompatibles avec la politique globale de son entreprise. Un jour, elle s'en est même ouverte à un philosophe qu'elle avait invité à donner une conférence. Elle lui avait demandé quoi faire, comment supporter ce conflit en elle, et il n'avait pas su quoi dire. Il avait pensé « démissionne, casse-toi, pars, change de job si tu peux », mais il n'avait rien dit. Combien sont-ils, les hommes et les femmes qui arpentent les trottoirs le matin pour se rendre au travail avec au fond du ventre ce genre de conflit ? Est-ce que chaque jour, chaque matin, une armée entière se lève d'hommes et de femmes ainsi déchirés ? Combien finiront, comme cette femme, par faire un burn-out pour réussir enfin à voir ce qui pourtant sautait aux yeux ? Pour en parler ce matin, de conflits de valeurs mais aussi de dissonances cognitives et même de dissociation, j'ai la joie de recevoir Anne-Victoire Rousselet, psychologue et psychothérapeute au centre hospitalier GHU Sainte-Anne à Paris, chargée de cours à Paris Cité, autrice aux éditions d'Uno de Mieux vivre avec la schizophrénie. Anne-Victoire Rousselet nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon pour nous aider à comprendre comment on fait pour réussir à être soi quand on est déchiré, quand on est divisé, comment on fait pour être soi quand on entend au fond de soi la dissonance.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Anne-Victoire Rousselet.
Bonjour Charles Pépin.
Alors je suis très heureux de vous recevoir pour la deuxième fois, d'ailleurs je l'ai déjà reçu il y a quelques années, j'avais tellement adoré cette discussion avec vous, on parlait à l'époque du déni et de votre pratique. Alors je dis une chose quand même pour commencer, c'est que vous faites de la psychothérapie, mais à Sainte-Anne, c'est-à-dire avec des psychotiques le plus souvent, et en plus une psychothérapie pas vraiment analytique comme on imagine, mais de l'ordre des TCC, c'est-à-dire du comportementalisme, pour le dire vite. Donc c'est quand même très intéressant de penser que vous appliquez ces méthodes à des cas de psychotiques, et c'est pour ça qu'on est très content de vous écouter. Alors ma première question, c'est le portrait que j'ai fait d'une personne en conflit de valeurs. Est-ce que c'est si grave, et est-ce qu'il y a de quoi consulter? Sans, on parlera plus tard de choses plus graves peut-être, comme la dissociation, mais est-ce que ce conflit de valeurs en soi, il est si problématique ?
Oui, il est très problématique. Pourquoi il est très problématique ? Parce que c'est ce que vous avez décrit très bien, c'est qu'en fait il va y avoir un glissement sur le corps, sur le somatique. Donc ce conflit de valeurs, il s'exprime entre un environnement et soi, entre moi, individu, comment je peux m'intégrer dans cet environnement qui ne me convient pas et dans lequel je perçois des failles et des difficultés à surmonter. Donc la consultation va en effet être utile, déjà pour révéler ce conflit de valeurs, parce que parfois on a juste mal au dos et on a juste des rhinites et on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et parfois c'est un révélateur, ça nous évite le burn-out. Donc déjà, on se place, en travaillant ce conflit de valeurs, on va se placer en prévention d'un trouble qui peut décompenser et donc d'un arrêt maladie et de difficultés par la suite parce qu'il faut reprendre le fil après. Et puis, donc d'abord le révéler et puis ensuite le résoudre. Le résoudre comment ? Bah, tout en identifiant quelles sont mes valeurs pour moi, qu'est-ce qui est important, où est-ce que je mets les limites, à quel moment je franchis mes valeurs, est-ce que je peux les franchir certaines fois, à certains moments, pour certains événements, mais durablement, quelles vont être les conséquences de franchir ce conflit de valeurs. Donc, ce qui va être important, c'est un, de l'identifier, et deux, de le traiter de façon très pratique et très pragmatique, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller, en fait.
Alors, c'est ça qui est passionnant. On imagine, prenons peut-être un cas concret de vos patients, sans le nommer, évidemment. Comment on fait pour traiter ça, et pour trouver cette limite ? Jusqu'où je peux me trahir, au fond ?
Bah, c'est la question des conséquences. Si je prends un patient qui avait pas de problème psychiatrique, mais un conflit de loyauté entre son ami qui lui demande de tenir un secret, donc une révélation qu'il a, et lui qui n'aime pas mentir, et qui plus est mentir à d'autres de ses amis, donc d'être dans cet inconfort. Donc on va essayer de traiter comment je me sens par rapport à cet ami, et comment je me sens par rapport aux autres. Et par rapport aux autres, si je commence à me sentir mal à l'aise, je vais commencer à éviter les situations où je les vois, je vais commencer à rougir, être inconfortable, à me triturer les mains, à me demander est-ce que je les vois ensemble ou pas, est-ce qu'il faut que je les vois séparément. Et donc à partir du moment où ça va devenir une charge cognitive trop importante, il faut résoudre cette ambivalence. Et résoudre cette ambivalence, c'est peut-être dire à son ami, je ne pourrais pas mentir pour toi, je suis désolée.
Voilà. Et très bien. Et en fait, dans votre mouvement, le comportementalisme, on l'oppose souvent à la psychanalyse. Pourtant, sur ce sujet du conflit de valeurs, vous êtes sur un terrain très proche. Quand on voit Freud ou même Lacan qui dit qu'il faut être fidèle à son désir, et Lacan dit à la fin de son séminaire l'éthique de la psychanalyse, qu'il faut essayer d'identifier grosso modo ce qu'il ne faut pas trahir. On peut trahir plein de choses au fond, mais il y a un truc qu'il ne faut pas trahir. Il ne faut pas céder sur son désir.
Il faut connaître sa ligne directrice, en fait. Il faut connaître sa colonne vertébrale, quelles sont nos valeurs. Et nous, on ne parlerait peut-être pas de désir. On parlerait davantage, en effet, de valeurs. Parce que ce n'est pas forcément des désirs. Parfois, vous avez des désirs qui vont contre vos valeurs. Et donc, on ne parlerait pas de désir, mais plutôt de valeurs. Et de choses auxquelles on tient. Parce qu'elles constituent aussi qui on est, notre éthique, notre fonctionnement et notre identité aux yeux des autres. Si je suis quelqu'un de loyal, si je suis quelqu'un d'honnête, si je commence à faire ces pas de côté et que j'entrave mes valeurs et que je commence à mentir, est-ce que je suis tout à fait moi-même ? Est-ce que pour les autres, je suis encore moi-même ? Et quelle va être la conséquence si jamais ils apprennent que j'ai trahi mes propres valeurs sur la relation, etc.
Alors ce qui est passionnant quand on vous écoute, c'est qu'on sent monter la question philosophique du moi. On est tous déchirés, divisés. Évidemment, le moi n'est pas unifié, il n'est pas solidifié comme un noyau, une substance. Donc au fur et à mesure de cette discussion avec vous, on va essayer de se demander qu'est-ce qui est normal, au fond, comme type de division, et qu'est-ce qui est pathologique. Mais franchissons l'étape d'après, c'est quoi la dissonance cognitive et quelle est la différence avec ce qu'on a évoqué comme étant simplement un conflit de valeurs ?
C'est une très bonne question parce qu'on fait souvent des confusions. Et la dissonance cognitive, c'est un conflit de valeurs internes. C'est-à-dire, c'est entre moi et moi. Voilà, c'est entre moi et moi. C'est pas l'environnement qui m'impose quelque chose. C'est moi qui m'impose deux choses contradictoires. Pour reprendre l'exemple de l'écologie, j'ai très envie de voyager et en même temps, je suis prise par ces injonctions nouvelles, ces prises de conscience, de considération et l'image à laquelle je tiens et que je me suis construite parce que ça correspond à qui je veux être. Ouais. Donc c'est un conflit interne en fait, la dissonance cognitive, qui peut être très fort et très inconfortable au point de précipiter les mêmes conséquences que le conflit de valeurs qui va mener au burn-out avec des fragilités physiques, émotionnelles, des crises d'angoisse, des douleurs, la dissonance cognitive est plus difficile parfois à identifier parce qu'on a plus de mal à se dire que à moi-même, que moi-même j'ai envie de ça.
Je me tyrannise moi-même aussi.
Bien sûr.
Je me donne à moi-même une injonction contradictoire, paradoxale.
Bien sûr, c'est cette injonction paradoxale et qui est insoutenable. C'est-à-dire quand elle nous est imposée par l'environnement, on dit que c'est de la faute de l'environnement, c'est de la faute de l'entreprise, c'est de la faute de l'autre. Là, c'est plus compliqué puisque quelle est, pour reprendre du coup le sujet psychanalytique, quel est mon désir en fait ? Mon désir de, je peux avoir les deux. Et c'est OK. Et la plupart d'entre nous, on a des désirs qui peuvent être contradictoires. Et comment on fait pour les assumer ? Et où est-ce que on met le curseur, en fait ? Et
d'ailleurs, il y a deux objections qu'on peut faire à la thèse de Lacan que j'ai évoquée. La première, c'est que, ça c'est lui qui le dit, si ce désir principal est inconscient, ça va être dur de l'identifier. Mais bon, ça passe, parce que Lacan a peut-être pas raison. Mais par contre, l'autre, c'est que, et si on avait deux désirs structurants aussi forts ?
On peut avoir un désir de liberté, d'émancipation et un désir de stabilité, de construire une famille. Et c'est un arbitrage qui est compliqué à faire et qu'on ne fait pas toujours consciemment, qu'on fait un peu pousser parfois par l'environnement ou par la société. Mais cet arbitrage-là entre épris de liberté, avoir envie de voyage, d'évasion, et puis ce besoin ou cette envie de structure, comment j'arbitre et à quel moment ?
Et alors, l'étape d'après, on essaye de faire un panorama, après on va discuter plus précisément de vos méthodes thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on appelle alors la dissociation ?
Alors la dissociation, il faut comprendre que quand je vis une situation, je ressens une émotion, j'ai une pensée, j'ai un comportement. D'accord ? Donc, je suis à un anniversaire, je suis très content de voir mes amis. Donc, je ressens de la joie physiologiquement. Donc, je ressens une adrénaline, une tension, une forme de légèreté. Je me dis, oh, c'est sympa, la discussion, on rigole. Et mon comportement, c'est de rire et peut-être d'aller d'une personne à l'autre, etc. Mmh. Et donc là, j'ai un profil unifié. Je suis cohérente, je suis congruente. Quand on est dissocié, la dissociation, ça veut dire que on peut finalement être dans ce moment et pas ressentir du tout de joie. Et pourtant, on perçoit que les gens sont joyeux. Et je suis pas déprimée. Je perçois que les gens sont joyeux. Je perçois que le moment est heureux. Et je me dis, je devrais être heureuse, mais je ne ressens rien. Et donc, ça peut être une dissociation entre le corps et l'esprit, entre ma pensée, c'est-à-dire je ne ressens aucune joie. Et pourtant, je sais que il y a de quoi être heureuse parce que ce que dit machin me fait rire. Pourrait me faire rire, mais je ne ressens rien, aucun indice physiologique de ma joie. Et mon comportement, donc il peut y avoir une dissociation entre l'émotion et le comportement, entre le comportement et la pensée et l'émotion. D'accord ? C'est sur trois domaines. D'accord. Et donc il peut y avoir des dissociations par secteur. Et cette dissociation, elle est souvent protectrice, défensive ou liée à un défaut de structuration plus jeune quand elle est permanente.
Mais alors du coup, c'est plus grave.
Oui.
Ouais. Et ça, est-ce que c'est aussi de la dissociation, par exemple, quand on est très, très mal, très angoissé, mais qu'on rit ?
Oui, tout à fait.
Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ?
En thérapie ?
Oui.
Bah, le travail, ça va être d'aider, d'aider la personne à se réassocier, c'est-à-dire la réancrer dans son corps. Donc, explorer avec elle, qu'est-ce que vous ressentez ? Et là, dans votre corps, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Et les dernières fois, si vous, là, vous ne ressentez rien, la dernière fois que vous avez ressenti de la joie, comment vous saviez que vous aviez de la joie ? Comment vous l'avez senti dans votre corps que c'était de la joie ? Ou la tristesse, ou la colère, etc. Et donc on va explorer avec l'autre ces différentes émotions, les pensées qui peuvent être associées, et l'aider à se réassocier. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle, la dissociation. La solution, c'est l'association, en fait. Réassocier pensée, émotion, comportement, pour avoir une logique congruente et cohérente.
Mais alors, puisque votre méthode est comportementale, d'ailleurs on voit bien... Vous venez de la suggérer, vous faites sentir au patient que la dernière fois qu'il a été joyeux, ça s'est manifesté comme ça, que là c'était un peu plus associé. Mm-hmm. Est-ce que ça pourrait pas dans l'avenir être... On imagine bien cette méthode. Mais si la dissociation relève d'une protection, et d'une protection inconsciente, est-ce que ça va suffire comme méthode ?
C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Ça suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir identifié que c'est la dissociation, il faut avoir identifié pourquoi elle est là. Si je prends l'exemple des patients qui sont venus après le Bataclan, ils étaient nombreux à me raconter les événements avec une froideur déconcertante, et ça c'est la dissociation par exemple, la dissociation traumatique qui leur permet à ce moment-là de survivre à une émotion insupportable.
D'accord.
Qui était le spectacle de ce qui s'est passé. Donc ils vous racontaient tout avec froideur, on identifie que c'est de la dissociation, et on dit bon, vous me racontez ça avec beaucoup de froideur, et j'essaye de comprendre de quoi vous vous protégez, et là, il y a une possibilité de s'effondrer, en fait. Et c'est ce qu'on vient chercher, finalement.
Il faut en passer par là.
Il faut en passer par l'effondrement, bien sûr. Il faut en passer par l'effondrement pour réassocier ces émotions avec un vécu physiologique et cognitif, et leur permettre de reprendre le fil de leur vie, parce qu'en fait, cette dissociation, elle s'exprime dans beaucoup de domaines, et elle est en effet, alors on pourrait dire un mécanisme de défense en psychanalyse, une stratégie de coping et de gestion en TCC, on va appeler ça différemment, mais c'est vraiment un mécanisme pour la survie, en fait.
Mais dans le cas de la dissociation traumatique, on comprend, le Bataclan, il y a eu une effraction psychique ultra-violente, mais vous avez aussi d'autres cas où il y a, par exemple, des patients psychotiques, ils n'ont pas eu un trauma ponctuel, et ils font aussi de la dissociation.
Tout à fait. Ça fait partie des symptômes de cette maladie, de ces maladies, les troubles schizophréniques. La dissociation est un des symptômes où, en fait, il n'y a pas d'unité psychique, psychologique, entre le comportement, l'émotion et la pensée.
Alors, je vais vous faire écouter un extrait d'un film, Split, qui parle peut-être un petit peu de ça.
Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Le cerveau humain est l'objet le plus complexe de l'univers.
La seule façon de se tirer d'ici, c'est que l'un d'eux décide de nous laisser sortir.
Un individu à personnalité multiple peut modifier sa physiologie par la force de la pensée.
Que se passera-t-il quand il libérera tout le potentiel de son cerveau ?
Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut devenir.
Alors, Anne-Victoire Rousselet, on vient d'écouter un extrait de Split, un film sur le trouble dissociatif de l'identité. Mais ça existe vraiment ? On peut être dissocié à ce point ?
C'est une excellente question. Alors, il y a des patients qui présentent un TDI, un trouble dissociatif de l'identité. On les voit rarement, mais c'est exactement ce qui se passe en effet dans la schizophrénie, la dissociation. Alors, il n'y a pas plusieurs personnalités dans la schizophrénie. Hein. On a souvent pensé ça.
C'est un cliché, ça.
Oui. Oui. En fait, la schizophrénie, c'est une altération des perceptions et du réel. C'est-à-dire que ce micro rouge, je pourrais voir, une pomme d'amour à la place et vouloir avoir envie de le manger. J'ai une altération de mes perceptions.
Ou une main agressive.
Ou une main agressive, ce qui est plus souvent le cas, en effet. Et donc, je peux avoir des mouvements de repli. Et surtout, je ne fais plus confiance à mes perceptions parce qu'elles m'ont trompé plusieurs fois. Ouais. Donc, si je leur fais trop confiance, je peux être très, très apeurée parce qu'en général, c'est plutôt des menaces. Mais si je leur fais plus confiance, je me replie et je peux être très inhibée, très hermétique.
Mais donc ces TDI, c'est quand même très rare, le trouble dissociatif de l'identité, à ce point-là, 37 identités, et puis dans le film, il est question d'une illimitation.
Oui, alors il y en a quelques-uns aux États-Unis, en France on n'en voit pas tant que ça, et y compris à l'hôpital, on en a eu, je crois, un dans le service récemment. Mais
D'accord, je comprends.
Où on les diagnostique pas, ou ils sont pas en France.
Eh ben, on va essayer de ressaisir tout ça après avoir écouté Françoise Hardy pour essayer de savoir comment on fait malgré tout pour être au moins un petit peu soi. Françoise Hardy, Fleur de Lune.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Anne-Victoire Rousselet, psychologue, psychothérapeute à l'hôpital GHU Sainte-Anne à Paris. C'est très intéressant ce qu'on écoute, même si c'est un peu dur. On parle de conflits de valeurs, de division interne, de dissonance cognitive, de dissociation. Je fais une petite précision avant d'enchaîner, c'est que la dissociation, c'est quand même le propre des psychotiques. Nous, les névrosés normaux, nous connaissons surtout le conflit de valeurs, dont vous avez très bien parlé, et puis quand même la dissonance cognitive, on pourrait dire ça comme ça.
Oui, oui, et la dissonance cognitive est très fréquente, hein, voilà. Par rapport à l'exemple aussi que vous donniez. Mais... Et donc la dissociation est plus un symptôme psychiatrique qu'on va trouver en effet dans les troubles psychotiques, schizophrénie, mais également dans le trouble borderline et les traumatismes.
D'accord. Alors dernière question pour les termes, et puis après on va vous écouter nous raconter un peu comment vous accompagner en thérapie. Qu'est-ce qu'on appelle le faux self ? Il paraît que beaucoup d'ados souffrent de ça.
Alors, le faux self, c'est la construction, c'est une construction un peu rigide d'une représentation qu'on s'est faite, qu'on s'est donnée, avec une idée de ce que doivent être nos comportements. Donc, ça peut passer par la tenue vestimentaire, ça peut passer par les gestes, ça peut passer par avoir, je sais pas, une bague tous les deux doigts, ça peut...
Ouais.
C'est quelque chose d'assez rigide et qui correspond, qui est une conformité à une représentation qu'on s'est faite. C'est une forme de dissonance généralisée, c'est-à-dire je ne suis pas vraiment à l'écoute de ce que j'aime, de ce que je suis, de mes sensations, de mes émotions. J'ai construit une représentation et je rentre dans cette représentation. Alors certains ados transitoirement peuvent en effet passer par là.
Je me fais mon film et je joue le rôle à fond, même si ça ne correspond pas à mon affect, à ma vérité, c'est
ça ? Exactement. Et ça, on sait que ça peut être transitoire, il faut leur laisser un peu tranquille.
Mais je vous interromps, mais parfois on fait ça et c'est pas grave. Quand est-ce que c'est pathologique au fond ?
C'est la question de la permanence.
Ouais, c'est ça. Hein,
dans le faux self, on est en dissonance en permanence. Et donc ça, c'est un sujet embêtant. Pourquoi ? Pour les éléments qu'on a évoqués au tout début. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le corps va parler. On ne peut pas vivre toute sa vie dissociée.
Dans la peau d'un autre.
Exactement.
En jouant son rôle. Mmh. Ouais, on a vu, ça rappelle souvent des souvenirs à chacun, telle personne qui joue le dandy maniéré à fond. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut en sortir. Et c'est intéressant ce que vous dites, c'est la permanence de cette façon de coller à son rôle qui est pathologique.
Exactement.
Pardon. Et d'ailleurs, ça veut dire que peut-être quand on joue à plusieurs rôles successivement, ça va, finalement. Parce que de l'un à l'autre, on se trouve.
Alors, ça dépend si dans l'alternance, il y a un petit peu de nous-mêmes à chaque fois. En effet, on peut peut-être s'en sortir comme ça, avec différents masques sociaux, en effet, mais si on est trop rigide dans quelque chose de trop rigide et qui ne nous correspond pas, qui ne correspond pas à qui on est, à notre éducation, à notre culture, parce qu'on a envie de rentrer dans tel environnement social, etc., ça existe au quotidien, mais il y a un moment où il va y avoir un conflit interne, une souffrance, une douleur qui peut se manifester par des symptômes psychiatriques importants.
D'accord. Mmh. Alors du coup, votre métier de psychothérapeute, c'est d'aider ces personnes à se retrouver, on pourrait dire, à retrouver presque leur vrai moi, même si on sait que ce vrai moi n'est pas unifié. Il y a quand même quelque chose qui fait que c'est moi davantage que quand je suis déchiré, dissocié ou en faux self. Alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, donnez-nous quelques méthodes, quelques manières dont vous pourriez, en tant que psychothérapeute, aider ces gens.
Alors, la première méthode, c'est, on a parlé de la prise de conscience, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a quelque chose de dissonant,
ouais,
de dissocié, de dis quelque chose, qu'il y a un conflit, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas cohérent. Est-ce que la plupart des gens, donc on peut s'interroger sur ce qu'on voit dans les films, sur ce qu'on lit dans les livres, parce qu'en général, c'est des profils plutôt justement associés et pas dissociés, qu'est-ce que vous observez chez les autres et qu'est-ce qui fait une différence chez vous ? Donc la première des choses, c'est la prise de conscience. Ensuite, il y a la question de la balance motivationnelle. Quels sont les avantages et les inconvénients que j'ai à continuer à fonctionner comme ça ? Il y a des avantages, évidemment. Quand on est un peu dissocié, on ressent moins fort ses émotions. Parfois, on les ressent même pas du tout. Donc, ça a un avantage. Ça veut dire que ça me permet de me suradapter, y compris à des situations, par exemple, de crise. J'en sais rien, si je vais sur les terrains de guerre, choses comme ça, ça m'aide d'être dissocié. Ça me protège quelque part. Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Certains inconvénients, je me réveille la nuit, je peux avoir des douleurs, je peux avoir des conflits physiques, musculaires.
Ouais.
Je peux avoir du mal aussi à avoir du plaisir, à ressentir du plaisir et de la joie, parce que je ne sais plus vraiment comment ressentir les émotions. Donc, on va leur apprendre à faire cette balance motivationnelle, et puis on va pondérer tous les éléments de cette balance motivationnelle. Voilà, j'ai pas beaucoup d'amis, parce que je suis pas très authentique, en fait. Donc voilà, je me rends compte que c'est difficile, les relations amicales, c'est beaucoup des relations superficielles. Donc ça peut être un outil. Donc, à combien vous évaluez ça comme gêne, en fait ? Ah, 9 sur 10, quand même, c'est pénible de ne pas avoir d'amis. Mais ça peut être 2 sur 10. J'ai pas besoin d'amis, j'ai une vie très solitaire. Donc, les différents facteurs, les troubles somatiques, etc., quelle place ils ont et quelle note on leur donne, quelle importance ils ont dans tout ça. Donc on va essayer de rendre ce quelque chose d'impalpable, d'indicible, de difficile à identifier. On va essayer de le rendre très concret en le chiffrant, en l'écrivant sur une feuille de façon très pratique.
Ça, c'est vraiment la méthode comportementaliste.
La méthode motivationnelle, une des premières approches motivationnelles face à un problème pour lequel on n'a pas de clé pour le régler, on a même un peu d'ambivalence, on n'est pas vraiment sûr qu'il faut le régler.
Oui, bien sûr.
Ben, donc ça, première
étape. J'imagine quand même l'objection d'un freudien qui dirait, vous êtes bien gentil avec vos numéros, avec votre tableau à deux entrées, mais s'il y a une résistance inconsciente si forte, ça ne servira pas à grand-chose. Désolé, le freudien est un peu brutal.
Oui, bien sûr, je vois que le freudien est encore bien présent. Mais on peut lui opposer, mais on peut conscientiser les objets de nos inconsciences, en fait. Donc, on peut aller chercher pourquoi c'est si difficile. Et de facto, dans l'étape d'après, après cette balance motivationnelle, une fois qu'on se dit, on résout l'ambivalence, et on se dit, bah oui, ça vaut la peine d'essayer d'avancer pour se réunifier, très bien. Eh bien, on va pouvoir proposer des outils de résolution problème et des tests comportementaux. Et c'est là qu'on va voir si ça résiste. D'accord. S'il y a toujours des freins inconscient qu'on n'a pas conscientisé, qu'on n'a pas réussi à aller comprendre, mais ça, avec une bonne alliance thérapeutique, les gens s'ouvrent quand même. Si on n'a pas réussi, eh ben là, on va voir les freins, parce que dans les objectifs comportementaux, on va voir que c'est pas réalisé. Donc on va s'interroger, pourquoi c'est pas réalisé ? Qu'est-ce qui a été difficile ? Pourtant, vous étiez bien au clair, c'est l'objectif que vous êtes fixé. Et donc, c'est dans les objectifs comportementaux qu'on s'est fixé, on ne parvient pas à faire les tâches. C'est donc qu'il y a un frein, donc on revient à l'étape précédente de travail motivationnel, d'essayer d'identifier pourquoi c'est si difficile, etc.
Parce que du coup, si on voit d'un côté ce que ça nous apporte et de l'autre côté ce que ça nous retire, peut-être que ça nous apporte c'est plaisir, joie, etc. Mm-hmm. Et ce que ça nous retire c'est souffrance, douleur. Mais l'idée du freudiste c'est quand même que dans la souffrance il peut y avoir une jouissance inconsciente.
Bien sûr.
Et ça c'est une des principales résistances que vous devez rencontrer.
C'est pas la principale. La principale, je pense que c'est l'absence de conscience, de lien, en fait. C'est lié au symptôme en lui-même, hein, à la dissociation en elle-même. Hein. C'est difficile de faire le lien entre mon mal-être physique et mon absence d'émotion. Quelqu'un qui arrive, moi j'ai patient donc schizophrène, qui arrive à des réunions de famille, ils supportent pas les réunions de famille, ils aiment pas ça, c'est angoissant, il y a trop de monde, on sait pas comment se conduire, comment on va parler à tel machin, on va lui poser des questions, où t'en es professionnellement, comment je vais dire que je travaille pas, etc. Donc, dans la tête c'est déjà compliqué, et là tout d'un coup, ils arrivent, et là, comme si de rien n'était, bonjour, comment ça va ? Et donc, complètement dissonant avec l'émotion qu'il ressent, ça, en interne, on est complètement paniqué, effondré, et pourtant, on donne le change, et on reste 3-4 heures à la réunion de famille, on prend le déjeuner, on sourit à tout le monde, etc. C'est un coût énorme. Donc, et un des premiers objectifs que j'ai avec mes patients, c'est de faire le lien entre la grosse crise d'angoisse d'avant et d'après la réunion de famille, et la réunion de famille. Et le coût que ça a pour eux, c'est d'accord, vous avez le droit de ne pas aimer ça et de ne pas être bien. La question, c'est comment on peut faire. Par exemple,
c'est très intéressant. Ça veut dire aussi qu'il faut parfois ne pas se laisser aveugler par ce qui semble être une réussite, mais qui en fait relève d'une dissociation. Parce que cette personne va dire, mais c'est quand même très bien, j'ai donné le change, et en fait, pas du tout, il y a un coût, comme vous le dites.
Il y a un coût qui est énorme, parce qu'après, c'est une semaine d'angoisse, au lit, pas bien, avec des ruminations, avec des idées délirantes, de culpabilité. Donc, le coût est énorme. Alors, on peut amender ce coût avec les épreuves comportementales dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, vous y êtes resté une heure, puis après, vous allez faire un peu de respiration, vous allez vous isoler dans un coin. Voilà, peut-être jouer à votre jeu vidéo que vous aimez bien, vous allez peut-être lire un bouquin parce que vous aimez beaucoup lire et que ça vous détend. Donc on a identifié les activités qui permettent de se réassocier, de redescendre, d'accord ? Donc d'avoir du plaisir à la lecture, ça c'est quelque chose qui peut identifier et qui est réel. Et puis après on peut y retourner, peut-être. Mais si on n'est toujours pas bien, on peut aussi rester en marge, on n'est pas obligé de faire les 4 heures de réunion de famille.
Oui, très bien. Alors, c'est intéressant, ce mouvement, se réassocier, parce qu'il y a eu dissociation. J'ai écouté, et à chaque fois que vous avez parlé de réassocier, vous avez pris des exemples très simples, lire un livre, faire de la respiration. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se réassocier grâce à d'autres personnes ? Dans la relation, quoi ? Ou c'est trop en demander ?
Si, mais c'est en général, les patients schizophrènes, eux, ont une souffrance à la vie sociale. Hein. Donc, donc, pour eux, c'est plutôt un facteur de dissociation. Mais bien sûr, en fait, si on est avec des gens très proches, alors si je prends toujours l'exemple de la schizophrénie, peu de personnes. Hein.
Ouais, c'est ça.
Une personne, deux personnes qu'on connaît très bien, avec lesquelles on est à l'aise, et on va discuter d'un sujet qu'on aime, qu'on partage ensemble et qu'on connaît bien, là, oui. Mais s'il y a trop de nouveautés, s'il y a trop de personnes, même des gens qu'on connaît très bien, s'il y a trop de nouveautés, le lieu, le sujet, le temps, les tenues, ça fait trop de facteurs à traiter pour qu'on puisse se réassocier. C'est des facteurs qui favorisent en fait la dissociation. On va plutôt chercher à changer un élément à la fois.
D'accord. Et ça veut dire aussi que c'est très progressif comme reconquête de ce moi réunifié.
Oui, tout à fait. Après, sur d'autres troubles, comme le trouble de la personnalité borderline, qui souffre de dissociation ou de traumatisme, on peut, par le contact physique, oui,
ah oui.
Là, donc c'est différent, par l'altérité et le contact physique, contenant, rassurant, apaisant, là, voilà, je fais le mouvement de serrer mes épaules,
les massages,
voilà, les... on peut, par ce contact physique, dans ce trouble-là, se réassocier. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster, and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger, can you guess who won? The universe shrugged, shrugged and moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. Ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
C'était très beau et c'était Pulp, Spike Island.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Comment se réassocier quand on a été dissocié ou divisé? Comment redevenir soi quand le soi a été déchiré de façon pathologique, de façon douloureuse? Nous en parlons avec Anne-Victoire Rousselet, psychologue, psychothérapeute à l'hôpital GHU de Sainte-Anne à Paris. Et d'ailleurs, je pensais à ça en écoutant cette très belle chanson pop de Pulp. Se réassocier, vous l'avez dit, ça passe parfois par le corps, par les sensations. Réapprendre que telle sensation est en harmonie avec ce qu'on est. La musique, ça peut aider aussi d'ailleurs.
Ouais, la musique peut aider. Quand on bouge, quand on est en mouvement, quand on se laisse un petit peu aller, les sons, on peut redécouvrir des sensations, on peut redécouvrir des émotions, on peut redécouvrir aussi des pensées. En tout cas, on se laisse un peu plus aller.
Ouais. Alors, tout à l'heure, on a distingué, même si j'imagine que c'est un peu caricatural, des psychotiques qui souffriraient de dissociation, des simples névrosés que nous sommes, qui souffrons de conflits de valeurs ou de dissonances cognitives. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous pouvez faire pour des gens comme nous? Parce que je vais être honnête avec vous. Je comprends bien ce que vous dites et les gens souffrent et vous les soignez. Mais quand même, moi, parfois, je tiens à mon conflit de valeurs. Et les gens qui n'en ont pas, ils me fatiguent un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour des gens comme nous?
Les gens en conflit de valeurs, ce qu'on a dit, on va chercher à identifier, relever. Et je pense qu'en effet, le conflit fait aussi qu'on avance et qu'on évolue. C'est-à-dire, le moi n'est pas immuable, l'identité n'est pas immuable. On doit évoluer, on évolue au travers de notre société qui évolue aussi considérablement. Ouais. Et donc, on doit aussi s'adapter. Et ces conflits nous aident à nous adapter. Parce qu'ils nous posent des questions et ils nous posent aussi nous. Il va falloir qu'on y réponde à ces questions. On ne peut pas les laisser comme ça, parce qu'on a vu qu'il y avait une dégradation. Donc comme on ne peut pas les laisser comme ça, on est obligé d'y faire face. Et y faire face, ça peut vouloir dire, comme il y a quelques temps, il y a des gens qui viennent avec des troubles du comportement alimentaire, qui ne comprennent pas pourquoi ils ont des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, vous comprenez que y a des conflits de valeurs à tous les étages, il y a de la dissonance, il faut que mon enfant voit son père, mais en même temps son père est maltraitant, est-ce que je dois laisser mon enfant voir son père, ça. Donc ce genre de conflit donne lieu à des troubles du sommeil, des troubles d'alimentation, et donc déjà c'est les révéler. Et quand il y a quelqu'un qui vient comme ça, qui me dit oui j'ai un problème alimentaire, etc., et qu'on va poser les questions de oui ok comment ça se passe le reste de la vie personnelle, la vie professionnelle, etc., ben on va déjà le verbaliser. Hein, parce que comme on n'est pas psychanalyste, on verbalise directement et on dit mais je comprends bien en fait pourquoi vous êtes inconfortable et pourquoi vous avez besoin de plaisir et de sucre le soir. Parce qu'en réalité, il y a plein de questions qui se posent et qui sont irrésolues et pour lesquelles vous n'avez pas de temps et pas d'espace. Et c'est bien normal que votre corps manifeste les choses d'une certaine manière. Donc déjà, verbaliser les choses, dire « Ah oui, vous croyez ? Oui, je crois même, je suis sûre en fait. » Je suis sûre. Et donc ça déjà, c'est une parole apaisante, d'avoir la subjectivité objective du psychothérapeute qui va venir dire « mais c'est normal, c'est de la mécanique en fait, votre corps vous parle de quelque chose qui est interne ». Donc la révélation déjà du conflit de valeurs, c'est un pas de géant, c'est 50% de la résolution quand même du conflit de valeurs. Donc ça c'est une étape importante, et puis l'autre étape importante, c'est d'accepter l'idée qu'on a des conflits et qu'on n'est pas au clair. C'est de commencer à se dire que je suis imparfait comme tout le monde et que c'est une bonne nouvelle. Parce que de mon imperfection, je vais pouvoir voir ce que j'ai envie de faire évoluer et comment et dans quel sens. Et donc on va se nourrir de ça, et plutôt que d'en parler comme quelque chose qui est un problème, on va en parler comme une opportunité, comme une chance de pouvoir évoluer, de grandir et de passer à une étape suivante.
Je fais une petite parenthèse. Vous savez, ce que Kant dit de l'émotion esthétique, c'est quand le conflit interne à la subjectivité, qui pour lui est normal, soudain est mis sur pause. Et il parle du jeu libre et harmonieux des facultés humaines que procure la beauté. Et toute l'œuvre de Kant, c'est de nous montrer que la grandeur de l'homme, c'est d'être habité par un conflit interne. Pour être moral, il faut que ma faculté morale soit en conflit avec mon égoïsme. Pour être un savant, il faut que mon entendement soit en conflit avec ma sensibilité. Donc voilà, c'est très intéressant. On entend de votre parole humaniste et douce, en fait, que le conflit, on l'aime aussi. Alors maintenant, revenons à la thérapie. On a compris la conscientisation, première étape. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire pour aider quelqu'un à se réassocier? Alors là, je ne parle pas de la dissociation au sens très grave, mais pour aider quelqu'un quand même à retrouver un peu son axe et à être moins divisé, à part la conscientisation.
On dira résoudre les ambivalences, c'est un peu, c'est les termes qu'on va utiliser. On va résoudre les ambivalences, donc on va déjà rouler, c'est les approches motivationnelles, on va rouler avec cette résistance. Il y a des choses, dès que la personne va être encline à écouter un peu plus et à comprendre comment son fonctionnement, sa mécanique est une entrave pour la suite de son évolution, on va discuter, mais est-ce que la règle que vous vous étiez fixée est toujours valable aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'elle est toujours valable? Voilà. Vous dites, il faut être loyal à tous et à tout le monde. Ok, très bien. Par exemple, c'est une règle. Vous vous trouvez en face de gens qui ne sont pas loyaux. Et vous vous dites, est-ce que je dois toujours être loyal? Et vous posez la question, et ça vous embête de vous poser la question. Et la question, c'est pourquoi ça vous embête de poser la question face à des gens qui ne sont pas loyaux? Alors peut-être que la règle, elle doit être amendée, ajustée, et peut-être qu'il faut être loyal avec les gens qui sont loyaux. qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc là, à un moment, il y a une respiration qui est possible. C'est-à-dire que, ok, je peux m'autoriser à amender ma règle, à l'assouplir,
ouais,
en fait.
C'est ça, ouais.
Il faut assouplir nos règles de fonctionnement, ce qu'on appelle nos schémas cognitifs, dont découlent nos valeurs, etc. Si on ne les assouplit pas, en fonction de l'environnement, on peut se retrouver dans une souffrance et dans une rigidité qui donne lieu à des comportements qui sont douloureux.
Ouais, donc vous débusquez les rigidités.
Ouais, il faut.
Ça me fait penser à la thérapie de la cohérence aussi un petit peu. Mmh. Je sais que c'est pas tout à fait votre courant, mais c'est assez proche, non ?
Oui.
La thérapie de la cohérence, j'explique en deux mots, c'est de démasquer une règle de vie qui en fait vient du passé, qui était cohérente à un moment, mais qui l'est plus. Donc au fond, on va changer, on va s'assouplir, comme vous dites très bien.
Voilà, c'est les schémas, on appelle ça les schémas. Jung appelle ça les schémas mal adaptés. Ouais. C'est une vilaine traduction de l'anglais, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est des schémas qui ont fonctionné dans l'enfance, dans l'adolescence, et qui aujourd'hui sont devenus des freins pour notre évolution. Si par exemple, je prends l'exemple d'un enfant... qui n'a pas été très valorisé, on ne lui a jamais dit que c'était joli ce qu'il faisait comme dessin, bon, ouais. Voilà, on a pris le dessin, puis on l'a posé là. Bon, il a grandi avec un sentiment d'insécurité, de difficulté à s'évaluer, parce qu'il n'avait pas vraiment de feedback, il n'avait pas de retour, en fait, sur ses performances. Et à l'âge adulte, même déjà à l'adolescence, c'est compliqué pour lui de faire des oraux, c'est compliqué de postuler pour des écoles, c'est compliqué d'aller de faire des réunions de travail, etc. Et donc, le schéma au début où il demandait rien à personne parce qu'il avait pris l'habitude qu'il n'aurait pas de retour, qui fonctionnait, qui lui a permis de grandir, en fait, sans être entravé physiquement, à l'âge adulte, devient une entrave. Il va falloir s'affirmer un peu plus, il va falloir aller chercher la reconnaissance, la valorisation. Qu'est-ce que tu as pensé de mon travail ? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant ? Etc.
Et ça prouve aussi que, finalement, dans la vie, on peut changer. Et que ce qui était légitime à un moment, mettons, voilà, je ne sais pas si on a eu un père très autoritaire, eh ben on ne s'est pas affirmé, on a été un peu fourbe, on a un peu louvoyé. Mais il n'y a plus de raison d'être comme ça, maintenant, à 45 ans, avec son boss.
Exactement.
Alors, j'avais lu un truc passionnant. Dans le livre de Bruce Ecker, dont le titre en anglais est horrible, Unlocking Emotional Brain, déverrouiller le cerveau émotionnel. Alors pour un philosophe comme moi, spiritualiste, c'est horrible ce titre. Mais bon, je l'avais quand même lu et j'avais adoré découvrir ce dont vous parlez en fait. Et il dit qu'en fait, on ne peut pas effacer les mauvais souvenirs parce qu'on ne sait pas où ils sont. En revanche, ces règles de vie comme ça, héritées du passé, on peut les retravailler. Parce qu'elles sont dans une autre forme de mémoire, qu'il appelle la mémoire sémantique implicite. Et j'avais trouvé ça plein d'espoir. Il nous disait qu'en fait, on peut se débarrasser, au fond, d'un schéma qui vient du passé.
On peut s'en débarrasser, on peut l'assouplir, on peut le mettre à distance. Il peut être moins omniprésent, moins omnipotent. Il peut avoir juste la place qu'on veut bien lui donner, mais qu'on va définir consciemment et rationnellement. On a ce travail de mise à l'épreuve comportementale aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a assoupli les règles de vie, pour régler cette question de la dissonance ou des conflits de valeurs, on va quand même s'interroger sur quelles sont les nouvelles règles que je fixe aujourd'hui, qui me correspondent, qui correspondent à la personne que je veux être, et comment je vais les mettre en place de façon comportementale ensuite.
Ouais, et c'est là qu'on comprend que le conflit de valeurs, ça peut être aussi entre le moi d'aujourd'hui et le moi d'avant.
Bien sûr. Et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que c'est des crises existentielles, des crises de l'âge de la vie, où on sent qu'on est allé au bout de notre fonctionnement tel qu'il était, et qu'on est obligé de sortir un peu. Alors en général, ça se fait quand même en douceur, mais on peut être enclin à avoir besoin d'une psychothérapie pour ça.
Je vais vous faire écouter, Anne-Victoire Rousselet, une petite surprise que je vous ai préparée.
Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, encerclé d'un mur d'angoisse. La rive d'en face du fleuve n'est jamais, puisqu'elle se trouve en face, la rive de ce côté-ci. C'est là toute la raison de mes souffrances. Il est des bateaux qui aborderont à bien des ports, mais aucun n'abordera à celui où la vie cesse de faire souffrir. Et n'est pas de quai où l'on puisse oublier.
Alors, c'était Denis Lavant qui lisait le livre de l'intranquillité de Pessoa.
C'est très beau.
C'est beau. Il n'y a pas de rive ou de quai où l'on puisse oublier. Mais si l'oubli n'est pas possible, le retravail des souvenirs traumatiques est possible. C'est ça l'espoir que vous portez.
Le retravail des souvenirs traumatiques et puis de son histoire.
Des règles de vie.
même sans qu'elle soit traumatique, l'histoire, les relations, les blessures, déjà juste de blessures, sans parler de traumatisme, parce qu'il ne faut pas non plus négliger ces blessures qui ont un impact sur la suite d'une vie, mais en effet, ça se retravaille, ça se reconscientise, et puis... Pour prendre un autre exemple, quand vous lisez le Petit Prince à 10 ans, à 20 ans, à 40, à 50, à 60, vous ne lisez pas la même chose. Et vous ne lisez pas la même chose, pas parce que le Petit Prince a changé, parce que vous, vous avez changé. Et vous avez un autre regard en fonction de votre expérience de vie et de ce que vous avez compris de votre vie et des expériences douloureuses, les blessures, les émotions, etc. Vous avez une nouvelle lecture. Et c'est cette nouvelle lecture, en fait, qu'on cherche à adopter et à intégrer.
Et de même, de la même façon que quand vous relisez Le Petit Prince à 20, 30, 60 ans, c'est pas pareil. Quand vous relisez votre enfance à 20, 30, 50 ans, c'est aussi pas pareil.
Mais oui, parce que c'est une autre histoire. C'est aussi une histoire, c'est la nôtre. Mais c'est important aussi de la relire. Parce que c'est cette relecture qui nous permet aussi de l'intégrer. Ce que vous avez intégré en étant enfant... n'a rien à voir avec ce que vous allez intégrer du souvenir que vous avez de votre enfance à l'âge adulte.
Au fond, on ne fait que réécrire nos souvenirs.
Oui.
Pas totalement, d'ailleurs. Dernière question, Anne-Victoire Rousselet. On se demande, en vous écoutant, on sait que c'est dur, votre métier, à Sainte-Anne, avec des psychotiques, mais il doit y avoir des grandes joies, j'imagine. Quelles sont les plus grandes joies que vous rencontrez en tant que psychothérapeute ?
Moi, je ne trouve pas si dur que ça, mon métier, déjà. Je le trouve très vivant et stimulant. Mais les grandes joies que j'aime, c'est les patients qui vont bien, qui trouvent du travail, qui trouvent une amie ou un ami, qui se marient, qui écrivent des livres, qui font des trucs incroyables. Ils n'ont pas la vie normale. Ils n'ont pas une vie normale. Ils ont une vie extraordinaire, en fait, parce qu'ils gèrent leurs troubles. Et puis, ils développent... des ressources incroyables. Donc ça, en effet, quand il n'y a plus d'angoisse, un patient qui me dit « j'ai pas eu d'angoisse là, pendant 2 semaines », c'est une grande joie, parce que c'est une victoire. Et c'est aussi mon travail de leur faire réécrire ça. C'est-à-dire de dire, quand ils disent « je sais pas ce qui a changé, mais si je reprends le fil depuis le premier jour où on s'est vu, que je prends l'histoire des crises d'angoisse qui étaient quotidiennes, etc. Aujourd'hui, il n'y en a plus, par exemple. Vous dormiez pas ? Vous dormez à nouveau, vous n'arriviez plus à avoir des interactions avec les autres, vous en avez à nouveau. Donc on les aide aussi à faire ce travail, parce que dans cette maladie-là, dans ces troubles-là, c'est plus difficile de faire ce pas de côté, parce qu'on est un peu figé, englué dans le présent.
Merci beaucoup, Anne-Victoire Rousselet, c'était très émouvant de vous écouter, et de, parce que les auditeurs ne voient pas, de voir vos yeux un petit peu changeants quand vous parlez de ces joies de thérapeute. Et pour vous remercier, je vais essayer de dégager la philosophie de la vie qu'on a entendue. Alors, vous venez de conclure très bien. Moi, c'est pas un métier dur, c'est un métier avec beaucoup de joie. Une philosophie de la vie, justement, j'aurais envie de dire de la souplesse. Voilà, on peut assouplir les schémas rigidifiés. On peut avoir de la souplesse dans la réécriture du passé, dans la façon de revisiter le passé. Une philosophie aussi, on l'a entendu, de l'accueil, de l'imperfection, au cœur du soin, au cœur du care, accueillir l'imperfection et comprendre qu'elle fait partie aussi de notre beauté. Et puis, évidemment, c'était notre sujet, philosophie de la réassociation, philosophie des retrouvailles avec soi, pour peu que ce soit possible. Anne-Victoire Rousselet, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cette émission a été préparée par Antoine Larcher, Audrey Carme et Laura Dumaise. Elle a été réalisée par Alicia Vullo, avec à la technique Tilaï Ravu. À demain.